Bonsoir à toutes et à tous. Première nuit en prison pour Patrick Balkany. La justice a ordonné hier l'incarcération immédiate de l'ancien maire de Levallois, accusé de fraude fiscale. Une décision disproportionnée selon les avocats du couple Balkany qui dénonce une leçon de morale de la part, je cite, d'un juge qui pense incarner la République. Alors, faut-il parler d'une peine exemplaire? Patrick Balkany est-il le symbole de l'affairisme des années 80 qui n'aurait plus sa place aujourd'hui? Et puis pourquoi le maire de Levallois-Perret est-il à ce point soutenu d'abord par les habitants de sa ville mais aussi par Nicolas Sarkozy qui ce matin a fait part de sa peine? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir Balkany en prison, la fin d'une époque. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match et vous avez interviewé à midi aujourd'hui Isabelle Balkany. Vous nous raconterez. Nous accueillons Mathieu Delahousse, grand reporter à l'Obs. Vous suivez le procès Balkany pour votre hebdomadaire. Vous étiez hier dans la salle d'audience. Vous nous raconterez également. Et vous êtes l'auteur de Cash Cash, enquête sur l'argent liquide illégal qui circule en France aux éditions Flammarion. Claude Veil est éditorialiste politique et Alix Bouillaguet, rédactrice en chef de l'émission politique sur France 2, qui est rebaptisée cette année. Vous avez la parole avec comme premier invité jeudi prochain Xavier Bertrand. Voilà. Alors, première nuit en prison pour Patrick Balkany, on imagine l'homme abattu. Quelles sont les dernières nouvelles? Vous avez donc déjeuné à midi avec Isabelle Balkany. Que vous a-t-elle raconté?
Alors d'abord, elle m'a raconté qu'elle avait réussi à lui parler 3 minutes hier soir avec un téléphone qui est dans le couloir, dans les couloirs de la prison de la Santé. Ouais, donc elle a pu s'entretenir avec lui 3 minutes juste pour savoir si ça allait. Il lui a dit que parce qu'il y a un problème de, il a une masse cancéreuse. Enfin, il aurait une masse cancéreuse une tumeur cancéreuse au-dessus de la hanche et du coup, il lui faut un traitement. Patrick Balkany, bizarrement, en tous les cas, il ne devait pas s'attendre ou il n'avait pas prévu peut-être d'aller en prison, mais il n'avait rien hier. Il est allé à la santé comme ça. Et donc, bon, il y a un médecin de Cochin qui lui a amené ses médicaments. Donc, ça a duré 3 minutes. Elle m'a dit qu'elle ne pourrait pas, contrairement à ce qui a été dit, elle ne devrait pas le voir avant le début de semaine, puisqu'il faut un permis de visite pour la famille. Les avocats vont, quand ils veulent, voir leurs clients lorsqu'ils sont incarcérés, mais la famille, les proches, ils doivent avoir un permis de visite. Et le permis de visite, il faut déposer, il y a une demande, donc elle ne l'aura pas avant le début de semaine. Sinon, elle était un peu comme elle est apparue hier aux premières heures après. Sitôt le jugement connu, très dans la défense de son mari, posture de victimisation et martelant que c'était une humiliation de d'avoir eu ce mandat de dépôt au jugement, parce que la vérité c'est qu'il savait qu'il serait condamné puisqu'ils ont reconnu les faits de fraude fiscale tous les deux, donc la condamnation n'est absolument pas une surprise. Ce qui est une surprise et même une, j'allais dire, symbolique dans cette affaire, c'est l'incarcération dès le jugement, ce qui n'arrive jamais.
Mais on a l'impression qu'ils sont toujours combatifs et elle, en tous les cas, qu'elle n'est pas abattue.
Oui, et elle est même, à mon avis, revigorée, remontée sur son cheval. Il faut quand même savoir que c'est une personne donc, qui a fait une tentative de suicide avant l'été, oui. Qui pendant 2 mois quasiment ne pouvait pratiquement plus marcher. Alors depuis le début août, ça va un petit peu mieux. Et puis là, en fait, depuis aujourd'hui, elle est aux commandes de la mairie, puisque la loi fait que le maire empêché, en l'occurrence Patrick Balkany est en prison, c'est le premier adjoint qui exerce l'intérim, ce qu'elle fait depuis aujourd'hui.
Mathieu Delahousse, à l'instant Bruno Jeudy disait qu'il s'attendait à être condamné, mais il ne s'attendait pas à l'incarcération immédiate. Vous étiez dans le prétoire hier à 13h26 quand ce jugement est tombé. Qu'avez-vous vu et comment les époux Balkany ont-ils réagi à l'annonce de l'incarcération immédiate du dépôt de mandat?
Mais il y a forcément une forme de stupéfaction. Tout le monde savait qu'effectivement, il y aurait cette condamnation. Il y a une part de surprise, c'est qu'on attendait l'incarcération, peut-être au deuxième volet, puisqu'il faut bien expliquer que l'affaire Balkany a été scindée en deux volets. Le volet fraude fiscale, dont le jugement a été rendu hier, et un volet sur la corruption, etc., qui arrivera le 18 octobre. Et on s'attendait à l'incarcération à ce moment-là. Et c'est vrai que personne dans une enceinte de justice, pour être clair, ne se réjouit de voir partir un homme avec les policiers. Parce que, il se trouve, moi, j'étais au premier rang hier du tribunal et que Patrick Balkany était à la distance qui est la vôtre. Et effectivement, on le voit faire un pas en arrière, les policiers physiquement se rapprocher. On n'a pas vu Patrick Balkany donner son téléphone portable à ses avocats ou à ses proches, comme c'est le cas souvent. Mais c'est vrai qu'Isabelle, qui était repartie disant qu'elle était fatiguée, est revenue auprès de son mari pour lui donner l'accolade. Son fils qui était là s'est rapproché évidemment tout de suite. Et il y a un silence qui est le silence de la fin de la liberté d'un homme dont, encore une fois, personne ne se réjouit. Après, il y a...
À ce moment-là, il y a une empathie, on se dit... homme a une empathie naturelle contre quelqu'un dont il apprend qu'il va aller passer la nuit en prison.
Je dirais qu'il y a la conscience de la gravité des choses et qu'effectivement, quand la justice tombe et que le temps rend son verdict, c'est quelque chose de violent. Après, il faut replacer les choses dans leur contexte sur le fait que cette affaire est totalement atypique puisqu'elle dure depuis 25 ans. Patrick Balkany a été mis en examen tardivement après des instructions de Renaud van Rooyenbeek notamment et qu'il n'avait pas fait un seul jour de détention provisoire.
Alors là,
et
du coup, fraude fiscale, c'est 2009-2015.
Oui, les faits sont relativement anciens. L'instruction se termine en 2016-2017. On arrive au jugement 2019. Mais c'est vrai que tout tombe d'un coup. Et ce que subit Patrick Balkany hier avec son épouse, c'est que finalement, c'est le temps des comptes et que ces comptes-là sont extrêmement violents parce que tout arrive en une seule fois. Jusque-là, les opérations ont pu se dérouler avec des opérations de police judiciaire parfois très tendues, avec des auditions chez le juge qui parfois ont été extrêmement difficiles également. Mais là, on arrive au moment des comptes. Et Patrick Balkany, s'il avait comparu détenu, comme ça arrive à des tas de gens en correctionnel aujourd'hui, serait resté en prison. Là, on l'envoie en prison et c'est vrai que ça donne toute la violence. Après, par rapport à la polémique qui existe...
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, avant d'être condamnés, souvent font déjà de la prison et que ça n'a rien d'extraordinaire, finalement.
J'ai regardé rapidement, parce que c'est un grand objet de polémique aujourd'hui, entre la vision politique, la vision citoyenne et la vision judiciaire, qui est une vision plus technique. Il y a environ 20 000 mandats de dépôt à l'audience qui sont prononcés chaque année en France, ce qui est assez considérable. Et il y en a sur ces 20 000, quasiment 90% qui concernent des comparutions immédiates. Ce sont des voleurs de téléphone, des agresseurs dans le métro qui partent directement en prison. Et effectivement, il y a une toute petite partie de ces mandats de dépôt à l'audience qui sont prononcés pour des gens qui se voient condamnés et dont on décide que l'exécution de la peine doit être immédiate. La seule condition que prévoit la loi, c'est qu'il faut qu'il y ait une peine de plus d'un an de prison, sinon c'est aménageable par le bracelet, etc. Ça, c'est pour la théorie. La toile de fond, c'est qu'effectivement, mais je pense qu'on va en parler, il y a dans cette affaire un affrontement entre justice et politique.
On va y revenir sur la lourdeur dénoncée par certains de la sanction. Alix Bouyaguet, ce qui est incroyable, c'est que voilà un homme qui est condamné quand même pour fraude fiscale, qui le mois prochain va essuyer un procès pour corruption, pour fraude aggravée, et qui est une star, qui le monde entier le connaît, alors qu'au fond, ça n'est que le maire de Levallois. Et il est soutenu, envoyé à la télévision, tous ces reportages. Il y a même des gens qui pleurent pour Patrick Balkany.
C'est un ovni. C'est une grande gueule. C'est quelqu'un qui a de l'entregent. C'est quelqu'un qui aime le terrain, qui aime serrer les mains, réconforter la mamie, mettre la main sur le petit bébé au marché. C'est aussi, il ne faut pas l'oublier, quelqu'un qui s'est essayé au métier d'acteur, qui a suivi des cours, qui est avec Michel Sardou notamment, Roland Giraud. Donc, il a aussi cette capacité à incarner comme ça la bonhomie. Et puis, il les a soignés. Ses concitoyens à Levallois, il a mis en place un équipement haut de gamme, donc il y a eu une piscine, un spa, un jacuzzi, il y avait une médiathèque, un conservatoire, il y avait le taux de crèche le plus élevé quasiment de France, alors que tout le monde rame pour avoir des places en crèche. À Noël, chaque retraité, chaque senior avait droit à son petit colis, son petit foie gras, sa petite bouteille.
On n'est pas loin du clientélisme.
Il a organisé des voyages scolaires pour les enfants au Canada, à l'étranger. Donc certains dénoncent effectivement un clientélisme. D'autres, quelqu'un qui au contraire était très proche de ses administrés, le résultat c'est qu'il a considérablement endetté la ville de Levallois qui a un taux d'endettement qui culmine en France.
Claude Veil, l'avocat de Patrick Balkany dit c'est un homme du XXe siècle, on a voulu sanctionner une ère Balkany. Est-ce que c'est aussi... une époque qu'on a voulu condamner avec ce jugement d'hier?
Non, je ne dirais pas cela, non. C'est un cas très, très particulier. En réalité, on a affaire à une PME, à une auto-entreprise de la fraude et de la fraude fiscale et de la corruption. Les affaires des années 90 que vous évoquez, c'était des grandes affaires de financement des partis qui impliquaient des dizaines de personnes, qui étaient systémiques. Là, on n'a pas affaire à ça. On a affaire à un homme et une femme qui, à la tête d'une commune, ont utilisé les pratiques qu'on voit et qui sont rattrapés très en retard, ce qui pose plein d'autres problèmes. D'ailleurs, ça pose le problème, en effet, de la complaisance des électeurs, dont on dit qu'ils détestent les malversations des politiques. Mais si c'est un bon maire, on le réélit quand même. Et il a fait beaucoup de choses, objectivement, pour Levallois. Ça pose le problème des protections dont il a bénéficié. Il a quand même été renouvelé, soutenu, au-delà du raisonnable, par le Parti des Républicains, ou hier le RPR, alors qu'il avait déjà accumulé tout ça. Ça pose le problème de la lenteur de la justice. Tout ça remonte quand même à des années. Les procédures sont interminables dans ce pays, ce qui fait que ça entretient dans l'opinion publique le sentiment, au fond, que les politiques ne sont jamais condamnés. Et tout à coup, boum, 4 ans ferme. À ma connaissance, je ne connais pas de cas où une personne ait pris 4 ans ferme avec dépôt à l'audience pour des faits de fraude fiscale en étant la première condamnation, puisqu'il a déjà été condamné pour d'autres délits dans le passé, notamment prise illégale d'intérêt, qui est un délit à la mode, comme vous savez, mais pour fraude fiscale, c'était sa première condamnation. 4 ans ferme avec prise de corps à l'audience, pour un politique, il n'y a pas de précédent, et même pour un homme d'affaires, moi, je n'en vois pas. Donc, est-ce qu'on a voulu faire un exemple, comme le dit Dupond-Moretti ? Manifestement, oui. Manifestement, oui. Et d'ailleurs, le prononcé du jugement dit clairement que ce qui lui est reproché, au fond, c'est d'avoir déchiré le pacte républicain. C'est ce qui est une considération à la fois politique et morale qui va au-delà des considérations strictement juridiques. Mais il faut bien voir que, d'une certaine façon, Patrick Balkany, il est puni pour l'ensemble de son œuvre. Où il est récompensé pour l'ensemble de son œuvre, puisqu'il a un palmarès incroyable. Je crois que c'est une des plus belles collections de mises en examen de l'histoire de la politique française. Si on les met bout à bout sur 15 ans, c'est extraordinaire.
Alors, bon, puisque vous soulevez la question de est-ce qu'on a voulu se payer Balkany, hein, c'est ce que disait
non, je dis pas,
le maître.
Se payer, moi je dirais pas seulement. Pour faire un exemple, oui, il y a une dimension exemplaire dans le jugement, c'est évident.
Mathieu Delahousse, est-ce qu'il n'y a pas un aspect moral, et est-ce que la morale a fait. À faire dans le code pénal.
Alors, il y a toujours un aspect moral sous-jacent, mais là, les juges n'ont pas fait que cet acte spectaculaire de prononcer le mandat de dépôt à l'audience. Ils ont pris la peine d'écrire 67 pages de jugement malgré tout, et là, c'est vrai qu'on y retrouve des phrases qui peuvent très bien...
La déchirure du pacte républicain.
Qui existe, oui, mais ça n'est pas...
Ça vaut d'aller en prison,
tous les hommes politiques sont condamnés pour ça, mais Patrick Balkany n'est pas condamné pour ça. La principale formule qui est dans le jugement, qui concerne Patrick Balkany et qui justifie à la fois la condamnation et le mandat de dépôt, c'est l'enracinement prolongé dans la délinquance avec une résolution totale et de tous les instants et par tous les moyens de dissimuler son patrimoine. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie le fait d'aller en prison, c'est le fait de dire que cette délinquance est tellement ancrée qu'on peut imaginer, et les juges l'ont écrit comme ça, c'est le magistrat Blanchet qui l'a écrit comme ça, on peut imaginer qu'il puisse décider de s'extraire de la justice en allant s'installer dans un pays étranger autrement qu'avec les voies de recours classiques. C'est écrit comme ça.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'on l'a mis en prison immédiatement parce qu'on pouvait imaginer qu'il prenne la fuite.
C'est un élément qui est évoqué dans le jugement, mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, sur cet aspect-là, ça tient sur l'aspect de dire qu'effectivement, Patrick Balkany est inscrit, certes, comme un délinquant et un fraudeur fiscal, et en plus, effectivement, il a déchiré cette idée républicaine, le fait d'être très élu. Ce que disent en off tous les magistrats sur cette question du mandat de dépôt, de la peine, etc., c'est que Patrick Balkany et Isabelle Balkany, aujourd'hui, finalement, font les frais de lois qui ont été votées par le Parlement, dont ils ont fait partie à un moment. Ça, ce n'est pas écrit dans le jugement, et effectivement, c'est cette notion morale qui existe.
Bon. Juste sur l'aspect mandat de dépôt, alors...
L'incarcération immédiate,
je trouve que dans ce que dit le jugement, il ne faut pas oublier que les Balkany n'ont plus de passeport depuis 5 ans.
Ah, donc ils ne pouvaient pas fuir.
Donc pour fuir, il faut quand même le faire. Mmh. Non, mais c'est quand même un élément. Les avoir à l'étranger, les Balkany, on leur a pris tous leurs biens, de toute façon, c'est réglé. Troisième chose, lui-même, alors lui est maire de Levallois, donc il est assez facile à savoir où il est, et en plus, il a déjà annoncé qu'il serait candidat, on en parlera sans doute, candidat en mars prochain. Mmh. Donc il y a plutôt beaucoup d'éléments pour dire que Balkany, il était plutôt assez fataliste, sans doute, je ne sais pas s'il s'attendait ou pas à aller en prison, mais je trouve que la justification du mandat de dépôt, parce qu'il est dit dans le jugement, moi je la trouve... assez peu argumenté, finalement.
Alors, justement, on va revenir sur ce procès. Donc, la sentence est tombée hier à 13h26 pour les époux Balkany, qui ont donc été condamnés pour fraude fiscale, 10 ans d'inéligibilité, 3 ans de prison pour Isabelle Balkany, 4 ans pour son mari, avec mandat de dépôt, c'est-à-dire incarcération immédiate. Patrick Balkany dort en prison depuis hier soir, sujet de Barbara Steck et Stéphane Lopez.
C'est derrière ces murs du centre pénitentiaire de la santé à Paris que Patrick Balkany a passé sa toute première nuit en prison. Reconnu coupable de fraude fiscale massive, le baron de Levallois est finalement tombé. La veille, le couple est arrivé main dans la main au tribunal. Absente du procès après avoir fait une tentative de suicide, Isabelle Balkany fait ses premiers pas dans les couloirs de ce palais de justice. À quelques minutes du verdict, le couple affiche une étonnante décontraction. La lecture des conclusions accablantes va y mettre fin.
Les infractions dont se sont rendus coupables les époux Balkany ont gravement porté atteinte à l'ordre public et économique et aggravé la déchirure désormais ancienne du pacte républicain.
Le tribunal a estimé que le couple avait minoré la valeur de ses biens immobiliers, dont la villa Pamplemousse à Saint-Martin ou encore le moulin de Giverny, et dissimulé à l'administration fiscale la majeure partie de ses revenus. Condamné à 4 ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité, Patrick Balkany quitte la salle à l'abri des caméras. Isabelle Balkany, elle aussi condamnée à 10 ans d'inéligibilité et 3 ans de prison ferme, est laissée libre en raison de son état de santé. Dans la foulée, Éric Dupond-Moretti, l'avocat du maire de Levallois, très en colère, annonce qu'il fait appel et demande la remise en liberté de son client.
On a une leçon de morale publique, c'est le jugement dont vous avez entendu la lecture. Et naturellement, on a oublié que ces faits étaient des faits anciens. On a résumé toute l'action de M. Balkany à sa fraude et toute sa vie à cette fraude. Mais ce qui me choque le plus, c'est évidemment le mandat de dépôt qui est une humiliation totalement inutile et pour nous insupportable. Jamais personne ne peut dire sérieusement que M. Balkany aurait tenté de prendre la fuite. Il a été présent à tous les actes de la procédure. Je pense qu'on s'est payé Balkany aujourd'hui. Une immense
souffrance. De retour à la mairie de Levallois, Isabelle Balkany va enchaîner les interviews pour dénoncer une sanction, selon elle, disproportionnée.
Lorsque l'on commet une faute, eh bien, il faut l'assumer. C'est ce que nous avons toujours fait. Nous en avons commis, comme tout le monde, quand nous étions jeunes élus, par ignorance, etc. Nous avons toujours assumé. Mais encore faut-il que la sanction soit proportionnée à la faute. Je suis évidemment bouleversé, meurtri, triste et inquiète pour l'homme que j'aime depuis 43 ans.
Alors que la classe politique se montre discrète, les soutiens rares, Nicolas Sarkozy, l'ami de toujours, a témoigné ce matin de son attachement au couple Balkany.
C'est certainement pas quand les gens sont dans la difficulté qu'il faut les abandonner. Un peu d'humanité ne fait pas de mal. Je sais la règle dans la vie politique et je connais la règle aussi de la vie médiatique. Quand vous êtes dans la tourmente, il n'y a plus personne. C'est un ami d'enfance et ça m'a fait de la peine pour lui et ça m'a fait de la peine pour elle et j'espère qu'ils vont tenir le coup.
Les Balkany n'en ont pas fini avec les peines et la justice. Le 18 octobre, le tribunal correctionnel de Paris rendra son jugement dans le deuxième volet de l'affaire, celui du blanchiment et de la corruption. Dans ce deuxième procès, le maire de Levallois encourt 7 ans de prison ferme.
Alors, question téléspectateur. Balkany mérite-t-il un traitement plus dur que Cahuzac, Claude Veil ?
Ça, c'est une appréciation personnelle. Je ne suis sûrement pas me lancer dans un débat de
morale. Il n'a pas fait de prison.
Dans un débat de moralité sur la gravité des respectives. Non, Cahuzac a bénéficié d'une peine aménageable, c'est-à-dire il a eu un bracelet, puisque sa condamnation était inférieure à 2 ans. Ce qui était puissant dans le cas Cahuzac, si on parle de déchirure au pacte républicain, c'était cette image extraordinairement forte qui restait, qui restera dans l'histoire, d'un ministre mentant à la représentation nationale. Sur mon honneur, les yeux dans les yeux, etc.
Je n'ai pas eu, je n'ai jamais eu, mais
c'est député. Et c'est ce qui a aggravé sa condamnation, parce que les faits en soi n'étaient pas d'une gravité exceptionnelle. Je rappelle que ça portait sur quelques centaines de milliers d'euros planqués à Singapour ou je ne sais où, et là non plus, il n'avait pas d'antécédent judiciaire. Donc, si ça vous arrivait à vous, vous auriez été condamné beaucoup moins lourdement. Là, c'est le ministre et la parole ministérielle qui ont été sanctionnées. Alors, après, l'échelle des peines, moi, je ne me prononce pas. Comme le disait Mathieu Delahousse à l'instant, il est évident que dans le cas particulier de Patrick Balkany, ce qui est sanctionné, c'est ce que le président a appelé l'enracinement.
Mais Mathieu Delahousse, on entendait ce matin beaucoup de gens qui défendent Patrick Balkany dire 4 ans de prison, alors vous qui êtes un spécialiste, on est plus proche des peines de crimes de sang que de fraude fiscale.
Alors non, parce que le crime de sang, c'est plus de 10 ans, forcément, en cour d'assises, hein, c'est plus de 10 ans jusqu'à la réclusion à perpétuité.
Mais ce n'est pas automatique.
Ce n'est pas automatique, il y a parfois des acquittements dans les cours d'assises. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que Cahuzac avait été le premier à être condamné à de la prison ferme. Il ne les a pas fait, ça a été aménagé parce qu'on a accepté finalement que cette mentalité permanente, cette culture du cachot ne s'applique pas à lui. Et finalement, personne ne peut souhaiter qu'un homme aille en prison, etc., au-delà du discours banal. Mais c'est vrai que le fait est que Cahuzac, qui est un homme qui avoue, qui paie les impôts, et qui, d'une certaine façon, rend l'argent, va être condamné à une peine forte, sans faire de prison, et à une popularité absolument terrifiante dans toute l'opinion française. Patrick Balkany, qui a avoué très tardivement, qui n'a toujours pas payé ses impôts, parce que le redressement menace toujours, qui a eu une attitude au procès, mais je pense qu'on en parlera, qui a été particulièrement mal appréciée par la communauté judiciaire, se voit condamné à une peine extrêmement forte, fait de la prison, mais lui est quand même c'est très étonnant sur à quoi on assiste depuis 24 heures, sur une forme de popularité, une forme d'incrédulité de l'opinion publique et de la communauté politique face à son incarcération.
Vous diriez, ces deux personnages différents. Vous avez le sentiment que l'opinion publique est choquée par la sévérité du jugement
les tout habitants cas, la le Valois. La parole médiatique porte énormément.
Mais pour ce que j'en juge sur les réseaux sociaux, je ne suis pas convaincu.
Alix Bouillaguet, à l'instant, Mathieu Delahousse parlait de l'attitude de Patrick Balkany pendant le procès. Alors c'est vrai qu'il a ce côté grande gueule qu'il a conservé. Ça a été épique ce procès quand vous l'avez suivi ?
Oui, il a été complètement lui, c'est-à-dire provocateur à des moments, hein, même recadrant son avocat, pinaillant sur l'âge. On se souvient de
Maître Dupond-Moretti à qui il a dit « J'ai 70 ans, maître, voilà. Vous ne vieillissez pas ».
On se souvient aussi de son portable qui sonne en pleine audience avec la musique des Tontons Flingueurs. Voilà, donc c'est je pense que la justice a dû y voir une forme de peut-être de nonchalance, de provocation, doublée du fait que Patrick Balkany n'a à aucun moment demandé pardon. Enfin, il a reconnu les fautes, mais enfin, on va dire une manière de dire que faute passive. En clair, j'ai mal géré, enfin, parce qu'il avait tout à fait le temps d'aller à des guichets de Bercy pour se régulariser. Bon, donc il admet à mi-mot une faute passive, mais à aucun moment il demande pardon. Il prend en compte le parcours de ce qu'il a fait pendant toutes ces années. Donc je pense que aussi les juges, à un moment, se sont dit mais peut-être que la prison, effectivement, c'est quelque chose qui...
Mais Bruno, je dis, on a l'impression que face à ces grandes gueules, un peu entre guillemets, c'est comme Bernard Tapie, un peu plus de mansuétude. Tiens, il nous fait rire. Finalement, il est plus fort que le système.
De la part de l'opinion ?
Oui, de la part de l'opinion.
Je pense que l'opinion, par rapport à ces grandes gueules, comme vous les appelez, elle est divisée. C'est-à-dire que Patrick Balkany, en gros, c'est blanc ou noir, c'est pour ou contre. Le Valois, parce que le Valois, les Levalloisiens, aiment beaucoup le couple Balkany, et singulièrement Patrick, parce que c'est un couple, hein, c'est un peu la tête et les jambes. Les jambes, c'est un peu Patrick, le charisme, je cajole les grands-mères et je distribue les cadeaux. Et puis, la stratège, c'est Isabelle en coulisses, qui a pensé, parce que le Valois était une ville assez en pointe sur plein de choses, la police municipale, la vidéosurveillance, les équipements publics, et surtout l'immense aménagement du front de Seine. C'est quand même une ville qui a été transformée complètement. C'était une ville ouvrière du nord-ouest parisien qui est devenue une ville cossue, une des villes les
sans
plus
HLM.
Cossues de l'ouest parisien.
Comment il fait d'ailleurs ? Il a toujours résisté ?
Il y a quand même des HLM à Le Valois.
Il tangente les 20%. J'ai regardé les chiffres avant de venir.
N'oublions jamais que c'est une ville qu'il gagne en 1983, qu'il enlève au Parti communiste. On a oublié parce que les communistes ont géré de manière bref, dans le temps, cette ville, mais il gagne cette ville en 83. L'opinion, en fait, Patrick Balkany, c'est aussi la droite des années 80-90, la droite pascoyenne, gaulliste de cette époque-là. Donc, bah, il y avait les fans de cette époque, de ce gaullisme pascoyen, chiraco-pascoyen, hein, même si Patrick Balkany, comme d'autres, a pris du champ avec, avec Chirac lors de la présidentielle de 95.
Il était du côté de Sarkozy,
Du côté de Sarkozy, du côté de Balladur. Hein. C'était tous les Hauts-de-Seine qui étaient derrière Balladur contre Jacques Chirac. Ça lui a valu d'avoir un concurrent chiracien dans sa ville qui le battra en 1995. On dit, c'est vrai que les Balkany sont installés à la tête de la mairie depuis 83. Il y a eu une courte période, 95-2001, où un chiracien bat Patrick Balkany. Alors, on était dans le contexte aussi de sa première condamnation. Il y a eu aussi un procès à la fin du siècle dernier. Patrick Balkany avait été condamné.
Tout ça fait partie de la geste de Balkany.
Voilà, c'est la geste.
Alors,
c'est
la reconquête en 2001-2002, ça fait partie de l'histoire des Balkany.
Et c'est un personnage qui, du coup, s'est installé dans le paysage politique avec, évidemment, le style très particulier de Patrick Balkany, qui lui vaut autant de, enfin, beaucoup de détracteurs, mais aussi des gens qui aiment ce style.
On va revenir sur le coup de Balkany. Un mot d'abord, puisqu'il y a eu le procès, la condamnation. Aujourd'hui, alors, on lui a saisi tous ses biens, c'est quoi ? C'est un homme ruiné qui va, parce qu'il va y avoir un deuxième procès, ses avocats vont dire c'est sûr là qu'il va être condamné. Donc c'est un homme qui va passer les 10 prochaines années de sa vie en prison et qui est ruiné sur le plan financier.
Alors il y a plusieurs choses. Pour l'instant, les biens n'ont pas été tous confisqués, ils sont tous saisis, mais on attend le deuxième jugement pour avoir sans doute effectivement les saisies définitives. Il y avait un très beau riad à Marrakech qui effectivement est sous main de justice, comme l'expression le dit. Il y a la villa Pamplemousse à Saint-Martin, mais il reste le moulin de Giverny qui est l'habitation aujourd'hui principale.
Ils ne vivent pas à Levallois-Perret.
Ils ne vivent pas à Levallois. C'était toute l'histoire de Patrick qui faisait effectivement le trajet tous les jours entre l'Eure et les Hauts-de-Seine pour aller travailler. Et tous ces biens, effectivement, le juge judiciaire s'est prononcé. Il y a un deuxième juge qui est plus discret, mais qui va être très violent avec les Balkany, c'est le juge de l'impôt. La procédure fiscale, aujourd'hui, n'est pas terminée. L'avocat de l'administration fiscale était présent au procès et il était, grosso modo, sans être trop caricatural avec ses calculettes, mais on est à 4 millions d'impôts éludés selon les calculs de l'administration fiscale. Donc tout ça va faire partie des procédures de redressement qui sont interminables. Sur
plus
la deuxième question, celle de la prison, personne aujourd'hui, raisonnablement, n'imagine que Patrick Balkany, qui a 71 ans, va rester jusqu'à ses 81 ans en détention. En revanche, effectivement, la prison est une réalité aujourd'hui, depuis hier soir pour lui. Elle le sera sans doute, même s'il ne faut jamais faire des pronostics par rapport aux procédures de remise de liberté qui ont été déposées par Dupond-Moretti et V, au moins jusqu'au 18 octobre, date de la deuxième audience.
Il y a des chances de sortir alors, suite à cette demande, pour raison de santé, de sortie ?
Il sortira sans doute au moins dans quelques mois, en raison de son âge et en raison aussi, effectivement, de toutes les confiscations qui seront prononcées. Personne, encore une fois, il ne faut pas faire de pronostic, mais n'imagine qu'il puisse rester jusqu'à 81 ans.
Ajouter son état de santé, je pense aussi.
Absolument. Ouais.
Il dort ce soir dans le quartier des personnes vulnérables. Ouais. Ça veut dire quoi, ça, à la prison de la santé ?
C'est en réalité, c'est ce qu'on appelait auparavant le quartier VIP. Ah. C'est là où a été André Galfi, Bernard Tapie, Jérôme Kerviel, enfin toutes les célébrités que la pénitentiaire peut connaître. C'est là aussi qu'on met, par exemple, les policiers qui sont poursuivis pour des actes de corruption ou de violence pour éviter qu'ils soient en contact avec la population ordinaire. Et effectivement, les cours de promenade se passent mal. D'accord. Et par ailleurs, il est seul dans une cellule qui a été rénovée, qui est équipée d'un téléviseur qu'il va devoir louer par la suite. Et puis, il y a la visite régulière d'un médecin. Il y a des toilettes et des douches dans l'intégralité de ces cellules maintenant. Mais ça reste la prison avec effectivement une heure de promenade qui sont souvent...
un détenu
solitaire.
Ordinaire ou c'est un détenu encombrant qui sera particulièrement surveillé
Je crois que tous ceux qui ont croisé Patrick Balkany, ne serait-ce que physiquement dans un couloir, peuvent imaginer que ce ne sera pas un détenu ordinaire par rapport au contact qu'il peut avoir avec les policiers qu'il croise, avec les journalistes qu'il croise. Il a toujours cette voix qui sort d'entre ses entrailles avec à la fois un bon mot, une espèce d'ironie et de dureté mêlée.
Il reste une cellule de 9 mètres carrés.
Voilà. Tout à fait.
Et ce qui est incroyable, c'est qu'il reste... alors il est en prison et il reste maire.
Alors officiellement, il est toujours maire parce que c'est de la peine annexe, c'est-à-dire les 10 ans d'inéligibilité ne relevaient pas de l'exécution immédiate. Ça sera dans le jugement en appel. Mais en première instance, les peines annexes ne sont pas exécutoires.
Vous comprenez que c'est quand même pour les très Français, curieux incompréhensible. Ouais, de se dire que quelqu'un est en prison, condamné et qui reste maire.
Ce qui est doublement incompréhensible pour les Français, c'est qu'Isabelle Balkany a été condamnée à 3 ans, qu'elle n'a pas été, n'a pas subi de prise de corps à l'audience, tout simplement pour raison de santé, mais elle aurait très bien pu aussi être interpellée à la sortie, et qu'elle aussi est frappée d'inéligibilité. Mais c'est pareil, l'inéligibilité ne s'applique pas puisque la décision n'est pas exécutoire, ce qui fait qu'elle devient maire par intérim à partir de
d'aujourd'hui. Ce qui est encore plus difficile à comprendre pour les Français, c'est de se dire qu'il pourra peut-être être candidat à la prochaine élection municipale.
Il a annoncé qu'il le serait, je ne suis pas sûr qu'il le sera. Il avait annoncé son intention de l'être, en tout cas.
C'est compliqué d'imaginer un homme en prison faire campagne, mais enfin, légalement, il pourrait, il pourrait se porter candidat.
Et il pourrait même imaginer...
Et il pourrait l'emporter, peut-être.
Vous pensez que le Valoisien pourrait... Ouais.
Là, c'est vrai que bon, ceux qui lui sont proches sont encore sous le coup de l'émotion. Après, c'est vrai que les charges sont quand même extrêmement lourdes. Et puis qu'il a été 5 mandats, c'est ça, en tout
83.
Voilà, depuis 83.
En tout, il a fait 25 ans de député et 30 ans de maire.
Oui, Bruno Jeudi.
Non, juste quand même, bon, il a beau s'appeler Balkany, comme tout le monde, il a le droit à l'appel. Donc, ça, c'est suspensif. Et donc, c'est comme ça. Ça peut paraître bizarre, mais enfin, tous les Français qui... Peut-être ceux qui nous écoutent ont pu avoir une fois affaire à la justice. Quand on est condamné en première instance, on a le droit à un appel.
Et quand on fait appel, il est suspensif, donc la condamnation tombe.
Voilà, pas pour Balkany, comme pour les autres. C'est vrai qu'à l'arrivée, ça fait un maire empêché, c'est ce qu'on dit. Et donc, c'est le premier adjoint qui fait l'intérim jusqu'à temps qu'il revienne. Mais quand bien même il le voudrait, quand bien même il serait en prison le 15 mars, date du premier tour des municipales, il pourrait être formellement candidat.
Il en serait capable, il a dit comme une sorte de pied de nez.
Il a dit qu'il serait candidat. Maintenant, on verra, l'eau va passer sous les ponts, ça peut aussi être Isabelle Balkany, la candidate.
Qui ferait campagne pour lui, presque.
Ou qui serait candidate en son nom. Je ne sais pas s'ils pourront tous les deux être candidats, je ne sais pas s'il y en aura un seul, mais il y en aura, s'ils peuvent avoir un Balkany candidat, ce sera le cas. Cela étant, à Levallois, les campagnes ont toujours été acharnées. Il y a toujours eu une opposition. Il y a aujourd'hui un opposant qui s'appelle Arnaud de Courson, qui est l'opposant principal d'hiver droite, et qui sera candidat. Donc, de toute façon, ça allait être une élection assez compliquée, le prochain.
Ah bon, il n'est pas, parce qu'il a été toujours élu dans un fauteuil.
Il est élu dans un fauteuil, ça joue souvent au premier tour, ouais. Effectivement, mais Patrick Balkany fait beaucoup de campagne. C'est pas les élections à Neuilly, c'est pas les élections à Levallois, c'est toujours assez acharné depuis toujours.
En effet, souligner que comme il n'y a aucune chance que le jugement d'appel intervienne avant les élections municipales, à ce moment-là, ils seront toujours éligibles l'un et l'autre.
Alors, près de 40 ans que leur nom rythme la vie politique française, les époux Balkany, un nom devenu synonyme d'affaires judiciaires, de procès, mais avant tout un couple lié par une ambition politique et associé à une ville, Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. Retour sur une incroyable saga politique avec Luki Ziella et Vivien Charère.
C'est l'histoire d'un tandem, un duo souverain à Levallois-Perret. Sur cette photo de 1983, Patrick et Isabelle Balkany célèbrent leur première victoire, la prise de la mairie. Au même moment qu'un certain Nicolas Sarkozy dans une ville voisine des Hauts-de-Seine. Ils sont la jeunesse, l'avant-garde de la droite RPR et comptent bien marquer la vie politique française.
Je suis là pour 30 ans si je ne fais pas de bêtises.
Des bêtises, il y en aura pourtant, mais elles n'entacheront pas la relation presque fusionnelle entre le couple et ses administrés. Avant les Balkany, Levallois était une cité ouvrière acquise au Parti communiste. Après, c'est une banlieue chic, un fief de la droite, où le couple impose son pouvoir bicéphale.
Très clairement, Patrick Balkany est plutôt enclin à aller sur le terrain pour rencontrer les gens, quand Isabelle Balkany est plutôt... C'est pas vrai à 100%. Et plutôt dans l'usine, en train d'essayer de faire tourner les boutons pour que ça fonctionne.
Mais le vent tourne. En 1995, il perd de la mairie de Levallois-Perret au profit d'un jeune poulain du RPR. Le couple également va mal. Ils se séparent, font même banc à part au tribunal de Nanterre. Accusés d'employer chez eux 3 personnes aux frais du contribuable, Patrick et Isabelle Balkany sont condamnés à de lourdes amendes ainsi qu'à 2 ans d'inéligibilité. Pas de quoi déstabiliser monsieur le maire, toujours aussi à l'aise devant les caméras.
Je n'ai jamais utilisé les deniers publics. Il y avait dans cette mairie 1500 personnes. Il y en avait trois qui travaillaient un peu plus pour moi. Et je crois que ces trois-là étaient tout aussi importants que les autres parce qu'ils ont donné au maire la possibilité de constituer des richesses très importantes pour la commune et pour les décennies à venir.
Retour en Grasse fin 97. Les inséparables se réconcilient. Isabelle prend la place de Patrick pendant la campagne des législatives. Sur le terrain, la candidate défend l'héritage de son mari. Son programme, c'est Patrick Balkany.
Le Valois s'est beaucoup transformé en 12 ans. Et je crois que les Levalloisiens ont apprécié ces transformations et qu'ils regrettent maintenant une dégradation de la vie quotidienne à Levallois.
Elle perd l'élection, mais ce n'est que le début de leur reconquête du pouvoir et du cœur des Levalloisiens.
Que Balkany qu'en foute la paix, qu'ils nous reviennent au pouvoir.
En 2002, Patrick Balkany est réélu maire de Levallois-Perret, dès le premier tour, avec son épouse pour première adjointe. Dans la foulée, il gagne aussi le siège de député des Hauts-de-Seine. L'heure de la revanche a sonné.
Est-ce que comme vous avez un excès de vitesse, on vous empêche de conduire? Si vous avez 8 jours de suspension de permis, eh ben vous n'aurez pas votre permis pendant 8 jours et vous reconduirez après. Et on vous en parlera plus. Eh ben moi, c'est pareil.
Mais en mai dernier, s'ouvre leur procès pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Les enquêteurs s'intéressent notamment à la villa de Giverny en Normandie. 1898 mètres carrés, 11 chambres, 9 salles de bain et du cash dans tous les recoins. Ce sont les employés qui le confient aux enquêteurs.
Je n'ai jamais vu autant de billets de ma vie. Il y en avait plein partout, dans la salle de bain de madame, dans sa coiffeuse, dans le living de monsieur. Il y avait des espèces dans les poches du peignoir de monsieur.
Au procès, en mai dernier, Isabelle Balkany est absente. Elle a tenté de mettre fin à ses jours, le 1er mai. Patrick Balkany, lui, est là, bien là, jamais loin du micro, même quand son célèbre avocat a la parole.
Madame Balkany est dans un état psychologique très fragile. C'est incontestable. Son mari, qui a 71 ans, qui l'a découverte inanimée et qui l'a pensée morte.
Bientôt, me vieillissez pas. 70, ça me suffit.
Et baissez le micro.
Ma femme qui a 71.
Ouais, c'est pas bien grave.
Si, mais je le dis quand même. Vous verrez quand vous aurez.
Non, mais mon fini.
Allez, faites votre déclaration.
Son mari en prison, Isabelle Balkany semble bien décidée à tenir la mairie de Levallois en tant que première adjointe. Elle a même communiqué son agenda de la semaine prochaine comme si de rien n'était, comme si les Balkany allaient encore faire campagne.
Alors, question téléspectateurs, les Balkany ont-ils été protégés pendant des décennies ? Bruno Judy, vous nous disiez tout à l'heure d'ailleurs qu'il... C'était un proche de Nicolas Sarkozy. C'est toujours un proche de Nicolas Sarkozy. La preuve, c'est que ce matin, il a fait part de son émotion, de sa peine, l'ancien président.
Oui, il a évoqué son amitié. C'est un ami d'enfance, a-t-il dit. Et c'est vrai que leur père était ami, tous les deux hongrois. Était ami et Patrick Balkany, qui avait plus de moyens que Nicolas Sarkozy, a fait grosse java. Il l'emmenait en voiture, en belle voiture dans le sud de la France. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Et il était évidemment au mariage du couple en 76. Et ils ont fait tout. Ils étaient à la fondation du RPR ensemble en 76. Et ensuite, ils sont devenus.
Pour employer un mot extra-politique, c'était des potes.
Voilà, des vrais potes. Des vrais potes. Donc, pote, et lui est devenu très, très proche, ils sont devenus très proches avec Isabelle Balkany, qui est vraiment quelqu'un qu'il aime beaucoup et qui se téléphone tout le temps. C'est lui qui a trouvé la clinique quand elle a eu s'occuper de la prise en charge lorsqu'elle a fait sa tentative de suicide avant l'été. Il lui a encore téléphoné hier soir. Ils sont très proches et Nicolas Sarkozy est fait de ce bois-là. Il lâche pas ses vieux amis. C'est Alain Carignon qui a fait quelques années de prison à la fin du siècle dernier et à l'époque, il invitait la femme de Carignan à passer Noël avec lui. Il est comme ça avec Sarkozy, il lâche pas ses amis, c'est comme ça. Est-ce qu'il a protégé Patrick Balkany? En tous les cas, il a certainement pas dû accélérer les procédures judiciaires qui étaient en cours, puisque Mathieu rappelait qu'elles datent depuis très longtemps. Incontestablement, il y a une accélération des enquêtes sous François Hollande, ça c'est sûr.
Ce qui frappe aussi, c'est que c'est un couple. J'étais frappé tout à l'heure d'entendre Isabelle Balkany parlait de son mari comme l'homme que j'aime depuis 43 ans. Il y a presque, je ne sais pas, un petit côté Bonnie and Clyde, alors toute proportion gardée, mais dans ce couple Balkany, non ?
Oui, ils sont trouvés. C'était donc il y a longtemps, c'est en 75 en fait. Ils se rencontrent une première fois au moment d'un anniversaire. Je pense que Balkany peut-être la repère vaguement et l'invite en décembre 75 à un match de boxe. Donc je trouve que c'est assez original comme premier rendez-vous. Et ils ont fini la soirée chez Lip. Et trois mois plus tard, ils se marient. Elle est enceinte de sa première fille, Vanessa. Et c'est 43 ans de vie commune qui commence avec...
Et l'adversité les renforce, non ?
Oui, l'adversité les renforce. Et puis, ils ont, elle, c'est un personnage aussi. C'est une fille d'immigrés tunisiens qui faisait de l'import-export dans le caoutchouc avec des gros moyens. Hein. Elle vivait dans un hôtel particulier dans le 16e de 300 mètres carrés. Elle allait en Rolls à l'école. Donc, elle a été élevée dans un certain milieu. Lui aussi, fils d'une entreprise de prêt-à-porter. Donc, très bonne famille. Et d'ailleurs, il y a quelques magasins qui étaient à proximité de l'Élysée. Et donc, les deux se sont totalement trouvés dans cette aventure. Et puis, c'est vrai que Nicolas Sarkozy, dans tout ça, a été... je pense qu'il regardait Balkany à l'époque comme le grand frère, justement, pistonné, plein aux as, qui le faisait un peu marrer. Et grâce à lui, parce que c'est Balkany qui fait son service militaire à l'Élysée, Et donc, qui finalement, alors qu'il pensait peut-être être acteur, se dit, bah, tiens, la politique, et ensemble, au RPR, ils commencent à tisser leur toile.
Et alors, comment ils fonctionnent ? C'est un couple qui est aux manettes à la mairie de Levallois-Perret, avec chacun sa tâche
Dès 1983 et avant, alors Patrick Balkany a première fois été candidat au municipal à Auxerre. Bon, ça a été un échec. Ensuite, il revient en région parisienne. C'est le moment où il y a la fondation du RPR. Il y a Pasqua qui règne sur l'ouest parisien. Et au fond, à l'époque, il envoie les Pasqua's Boys, on les appelle à l'époque. Et plusieurs vont partir à l'assaut de cités, de villes tenues par le Parti communiste dans cette région de l'Île-de-France. De Vejean ira en Antonie et Balkany à Levallois. Et là, à ce moment-là, ils installent une permanence avant 1983, en face de la mairie, et c'est une sorte de mairie bis, et ils partent à l'assaut du maire communiste de l'époque, qui les battront, et c'est le couple. Hein. Le couple, et ils partent à l'assaut, ils gagnent d'ailleurs un combat difficile, 51% au premier tour, et ça commence comme ça, et c'est vrai qu'il y a une répartition des rôles, Patrick Balkany, le charisme, le charme dans la rue, et il arpente les rues toute la journée, et puis Isabelle Balkany en coulisses, l'adjointe, la stratège, la communicante, oui. Elle est journaliste hein, à la base. Hein,
oui, voulait être journaliste.
Elle voulait être journaliste, enfin elle a travaillé Europe 1.
Journal combat quand même.
Ouais. Et donc elle est dans la stratégie, et puis ils mettent en place, ils essaient d'innover, ils essaient d'installer une sorte de gestion de ces villes de l'Ouest, avec ils mettent le paquet sur la sécurité, ils mettent le paquet sur la propreté, ils reconstruisent entièrement une ville. Hein. C'est quand même.
Il dira Levallois, c'est moi. C'est dire ah non mais c'est constitutif.
Je me suis amusé à regarder l'évolution de la ville de Levallois sur le siècle. Comme vous savez, au début du siècle, les taxis disaient je rentre à Levallois. C'était des entrepôts Levallois. Ensuite, c'était des friches industrielles, c'était des usines qui avaient fermé. Citroën, la première deux chevaux est sortie de Levallois, la toute première deux chevaux. Mais tout ça a fermé, était fracassé par la crise industrielle.
Et quand
on regarde l'évolution démographique, à partir de l'après-guerre, la population de Levallois ne cesse de s'effondrer. Jusqu'à quand ? Jusqu'au milieu des années 80, où les Balkany arrivent. Et à ce moment-là, Levallois est pris d'un dynamisme. Au bulldozer, il transforme ses friches industrielles en ce qu'on a appelé, tu auras raison, le 21e arrondissement de Paris, disons le 22e, parce que peut-être que le 21e, ça serait Neuilly. En tout cas, une banlieue chic, prospère, pour cadre en ascension, qui trouve là... Et qui ont des raisons d'aimer leur mère, parce que objectivement, c'est vrai ce que disait la ville est propre, a des équipements collectifs magnifiques, au prix d'un endettement record. Je crois quand même qu'à une époque, ils avaient le record de France d'endettement par personne, mais l'endettement, comme vous savez, c'est totalement indolore. Les équipements, on en profite, c'est nos petits-enfants qui paieront l'addition. Et donc, ils ont indiscutablement transformé cette ville et marqué de leur empreinte, ce qui fait que, moi, je connais un peu Levallois, parce que tous mes gosses y sont nés. Les gens de Levallois, la bourgeoisie de Levalloisienne est très attachée à son maire, c'est évident.
Juste, alors, ce qui est amusant, c'est qu'en 1983, donc quand il prend Levallois, c'est lui qui appelle Nicolas Sarkozy à la mort d'Achille Peretti, qui à l'époque est le maire de Neuilly. Il a l'info, il appelle Nicolas Sarkozy, lui dit « Vas-y mon gars, la place, elle est libre. » Donc, voilà, la toile d'araignée se met en place sur les Hauts-de-Seine.
Alors, au sujet de Patrick Balkany, Claude Veil, vous disiez tout à l'heure, un voyou charmeur. Et c'est vrai qu'il y a quelques phrases de lui qu'on va citer, là. Il a quelques saillies. « Je suis l'homme le plus honnête du monde ». Bon, rétrospectivement, ça amuse quand même. « Si on investit que ceux qui n'ont pas été condamnés par la justice, alors on n'aura plus de candidats dans les Hauts-de-Seine ». Est-ce qu'il a eu quelques-unes de ces saillies comme ça lors du procès qui ont amusé ou conquis un peu le public ou les gens qui avaient dans l'audience lors du procès.
Paradoxal, c'est que c'est un procès qui a fait beaucoup rire ou en tout cas qui a été pris beaucoup à la dérision, alors que les faits sont malgré tout assez importants et ils se soldent par effectivement un épilogue judiciaire très dur qu'est l'incarcération. Mais Patrick Balkany, c'est un homme qui est sûr de lui et il a toujours été très sûr de lui dans les images qu'on vient de voir quand il est sur les marchés, etc.
Mais et de sa bonne étoile.
Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'au durant les premier jour du procès, après, il a arrêté, notamment après cet incident très télévisuel du 70-71 ans. Mais cet homme, il était quand même devant la 32e chambre correctionnelle de Paris avec des juges extrêmement flegmatiques, mais effectivement très sévères. Le parquet national financier, l'histoire était écrite de la condamnation. Personne ne savait que le procès allait commencer. Et Patrick Balkany, aux suspensions d'audience, au-delà de son téléphone qui sonnait, etc., sortait, tombé sur les gens de Levallois qui étaient venus l'écouter à l'audience et leur refaisait le match, mais de façon extraordinaire, en disant « Vous voyez bien qu'on vous a raconté des fariboles, etc. » Et les gens étaient très séduits. Je pense qu'en dans son fort intérieur, il avait le sentiment qu'il avait convaincu la foule, alors qu'on voyait bien qu'il ne convainquait pas les juges, parce que tous les arguments qu'il a donnés étaient faux. Le principal, c'est une anecdote assez amusante, mais juste pour être rapide là-dessus, il parle cette fois de son père, au-delà de la fortune d'Isabelle, qui est extraordinaire. Et il dit, mon père m'avait laissé des dizaines de lingots d'or, et c'est pour ça que j'avais plein de billets de 500 euros, puisque je par erreur, mais vous comprenez, monsieur, je suis un homme d'un autre temps, je ne les ai pas déclarés à l'administration fiscale. Et cet argument tombe totalement, parce qu'en quelques jours, les juges vérifient les dates, et ça ne coïncide pas. On ne pouvait pas, les billets de 500 euros n'existaient pas au moment où il dit qu'il avait vendu ces lingots d'or. Donc, tous ces arguments chutent un par un, mais en revanche, en termes de mise en scène, c'est vrai que cet homme politique, on ne peut pas, quand il est au procès, ignorer l'investissement total qu'il a eu pour sa ville, investissement de D'accord. temps, investissement affectif.
Mathieu Delahousse, est-ce que vous avez senti une certaine légèreté de sa part, ne s'imaginant pas aller en prison? Et si c'est le cas, est-ce que du coup ça en fait un homme d'autant plus abattu qui en ce moment est dans sa cellule de 9 mètres carrés à la Santé?
La légèreté, c'est d'avoir avoué ce qu'il voulait avouer. Ça, c'est le choix qu'il a fait comme homme politique mis en examen, c'est de dire, effectivement, c'est de l'argent familial, avec la solidité de cet argument. Et puis, je n'ai pas fait, sur le deuxième volet, de voie de corruption qui m'aurait permis d'avoir de l'argent qui viendrait de façon miraculeuse, etc.
L'hypothèse psychologique, c'est que ce personnage de Thatcher, qui est lui, et qui est une partie de sa popularité. C'est un tchatcheur, c'est un flambeur, c'est un dragueur, c'est un hableur, c'est un provocateur. Vous pouvez mettre tous les mots en heure que vous voulez. C'est son personnage. Il est comme ça, mais je pense aussi que ce numéro de tchatch qu'il a fait au procès, c'était une façon de conjurer sa peur, en réalité, et de la tenir à distance.
Isabelle Balkany, puisqu'elle a suivi le procès à distance, puisqu'elle n'a pas pu y assister compte tenu de son état de santé, et quand on lui demande ce qu'elle a pensé du... La première partie du premier procès, où il était apparu assez hableur, provocateur, elle dit « Mais ça fait 43 ans que j'essaie de freiner l'impétuosité de mon mari, que voulez-vous que j'y fasse ?»
Alors, ce côté Audiard, c'est aussi une partie de sa popularité, parce que les gens adorent ça, quand même.
Lutter contre la fraude fiscale est devenue une priorité pour nos gouvernants, notamment depuis l'électrochoc de l'affaire Cahuzac. Chaque année, environ 80 milliards, alors les chiffres... sont pas tout à fait sûrs, environ 80 milliards d'euros échapperaient ainsi à l'État français. L'administration tente de s'adapter et se dote de nouveaux outils pour lutter contre la fraude et l'optimisation fiscale. Ainsi, cette semaine, Google, qui avait été accusé de fraude fiscale aggravée, Google a fini par effacer son ardoise avec l'État français. Sujet de Victoria Rouxel, Sofiane Essaoui et Ariane Morisson.
C'est une amende record, près d'un milliard d'euros. Ce jeudi, Google a soldé ses comptes avec le fisc français. Une victoire pour Bercy qui communique aussitôt la nouvelle par la voix du ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin.
Cet accord est historique, à la fois pour nos finances publiques et parce qu'il marque la fin d'une époque. En normalisant la situation fiscale de Google en France, il répond à l'exigence de justice fiscale de nos concitoyens.
Après Amazon, Apple et Microsoft, le géant des moteurs de recherche a lui aussi fini par signer des accords avec les autorités françaises. L'un, d'un montant de 465 millions d'euros, un rattrapage d'impôts pour clore les redressements fiscaux en cours. L'autre, de près de 500 millions d'euros pour mettre fin aux poursuites judiciaires engagées en 2015 contre Google pour fraude fiscale aggravée. Le parquet national financier soupçonnait l'entreprise de ne pas avoir payé l'impôt sur les sociétés. Des sommes proches du montant réclamé par le fisc. Une satisfaction donc pour cette administration qui a fait de la fraude son cheval de bataille, notamment depuis 2013 et le scandale retentissant de l'affaire Cahuzac.
Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant.
Merci. Un mensonge qui entraîne la condamnation à 4 ans de prison de l'ex-ministre délégué au budget. Un électrochoc aussi pour l'administration Hollande. Un nouveau service fiscal est alors créé pour inciter les contribuables français à rapatrier leurs avoirs placés à l'étranger. Plus de 30 milliards d'euros principalement cachés en Suisse et au Luxembourg que le gouvernement propose de régulariser sans passer par la case sanction.
Une partie de ses revenus en espèces n'ont pas été déclarés. Il le dit carrément. Ils jouent franco. Le contribuable est tellement content que son dossier soit régularisé. Il est tellement soulagé, si vous voulez, que bon, il va signer parfois dans les jours qui suivent. La proposition de transaction est acceptée.
Chaque année, environ 80 milliards d'euros échapperaient à l'État français. Alors, au fil du temps, de nouveaux outils viennent renforcer l'arsenal du fisc, notamment grâce à la loi antifraude portée en 2018 par Gérald Darmanin. Parmi les mesures phares, la suppression du verrou de Bercy qui oblige désormais les services fiscaux à transmettre à la justice les dossiers les plus graves. Des peines alourdies, mais aussi la publication du nom des fraudeurs. Autre dispositif, la création d'une nouvelle police fiscale inaugurée en juillet dernier par le ministre en personne.
Monsieur le ministre, bonjour.
Une brigade d'une cinquantaine d'agents aux compétences élargies pour lutter contre les plus gros fraudeurs.
On a été un peu naïfs peut-être jusqu'à présent, collectivement. Désormais, il faut effectivement que la voiture du gendarme aille aussi vite que la voiture du voleur.
Des voleurs que le ministre entend bien traquer, y compris sur les réseaux sociaux, grâce à la collecte de données numériques. Publication de photos de vacances dans des destinations de luxe, aller-retours fréquents en avion. Tout est analysé par des algorithmes pour que rien n'échappe à Bercy. Un recours à l'intelligence artificielle qui comporte certaines limites, selon le syndicaliste Vincent Drezet.
Donc c'est intéressant d'avoir un outil numérique pour traiter ces données-là. Mais cet outil ne peut être véritablement efficace que si, en amont, les données sont fiables, c'est-à-dire si les administrations, nous, d'autres, ou les opérateurs ont des données véritablement fiables, et si, une fois que tout ça a été retraité, les agents des finances publiques ont les moyens, le temps, notamment pour poursuivre les investigations et de faire un contrôle efficace.
L'année dernière, les recettes issues du contrôle fiscal ont reculé pour la 3e année consécutive. 15 milliards d'euros contre 17 milliards en 2016, une baisse que le ministère des Finances attribue notamment au succès de la coopération internationale en matière de fraude.
Alors, question téléspectateur, la condamnation de Patrick Balkany est-elle un avertissement pour les autres hommes politiques, Bruno Jeudy? C'est Jean-François Copé ce matin qui, sur France Info, disait « Maintenant, nous les politiques, nous sommes traités plus durement que les justiciables ordinaires. On va trop loin dans la sévérité vis-à-vis de nous. »
Il y a probablement dans le jugement, en tous les cas dans les 67 pages du président du tribunal, dans l'argumentaire, il y a probablement un message de stop à l'impunité des élus. Le président évoque le devoir d'exemplarité. Donc on sent qu'il y a une forme de peine aggravée, entre guillemets, même si ce n'est pas dit comme ça, pour ceux qui représentent les citoyens. Donc les élus, en l'occurrence le maire de Levallois, Patrick Balkany. Donc Jean-François Copé, dans sa formule, n'a peut-être pas tort. En tous les cas, on voit bien qu'on est entré dans une période où les magistrats veulent durcir, en tous les cas, veulent envoyer des messages à travers les procès qui sont faits aux élus.
Et donc les élus s'en inquiètent, ils se disent « attention, pas de faux pas, sinon je serai dans le collimateur de la justice ».
Les élus sont tenus au devoir d'exemplarité, donc je pense que ça c'est la première chose. Après,
nous sommes tous tenus au devoir
d'exemplarité. Oui, mais disons, les élus apparemment sont plus égaux que les autres, hein, en la matière.
Moi, c'est pas seulement une question. C'est vrai que les magistrats, aujourd'hui, la justice est devenue beaucoup plus indépendante qu'elle ne l'était. Il faut dire les choses comme elles sont. Et vous avez des associations comme Anticor qui sont d'une extrême vigilance et qui vont aller chercher. On est dans une époque dite de transparence où ça ne concerne pas que les hommes politiques, mais toutes les célébrités. Lorsque vous êtes pris dans les mâchoires de l'étau que forment les réseaux sociaux et les télés d'information en continu, vous êtes très très mal quand même. Et plus vous êtes célèbre, plus vous allez focaliser l'attention et vous avez intérêt à vous tenir à carreau. Ça me paraît une évidence.
C'est vrai qu'on voit l'affaire François Drugy, qui finalement a été pris comme ça dans un mécanisme, comme vous dites, entre les réseaux sociaux, les médias. Sur l'exemplarité, exactement. Donc en fait, maintenant, le barème, ça va de François Drugy à Patrick Balkany. Donc effectivement, je pense que c'est un devoir d'exemplarité puissance 10 000. Et effectivement...
Ça ne peut pas dégoûter certaines personnalités qui disent « Écoutez, moi, j'ai envie de manger des homards. Du coup, je ne sais pas si j'ai envie d'être homme politique.
Bah, » Déjà, dans le personnel politique, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui se détournent de la politique. Et même dans... il y a quelques années, il y avait, alors bien ou mal, hein, mais les sorties de grandes écoles, beaucoup pouvaient aller vers la politique. Aujourd'hui, on les voit moins. Je crois que c'est Emmanuel Macron qui avait dit en 2015 ou 2016, aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'est peuplée que d'apparatchiks ou d'anciens assistants parlementaires parmi les députés.
En plus, vous pouvez être rattrapé par le phénomène des dénonciations, vous pouvez être rattrapé sur des faits très anciens. Regardez le cas Ferrand. Ferrand, c'est parce qu'il devient un ministre important qu'on lui ressort, sur dénonciation manifestement, une affaire qui concerne une activité d'ordre privé 6 ans plus tôt. Donc le diable était dans la tombe, mais regardez qu'un, vous n'êtes jamais tranquille.
Juste sur l'exemplarité, il y a un point particulier, c'est que ce sont les parlementaires eux-mêmes qui ont voté les lois qui aujourd'hui permettent aux magistrats de poursuivre ces cas-là. Donc c'est vrai qu'il y a un paradoxe à vouloir dénoncer cette sur-surveillance des élus, alors qu'elle a été finalement acceptée par tous après l'affaire Cajuzac, c'est les lois d'octobre 2013, où effectivement, il est vrai que factuellement, les élus sont davantage en surveillance que les citoyens ordinaires, puisqu'il y a la haute autorité de la transparence de la vie politique qui surveille leurs déclarations avec quelque chose qui est très simple, parce qu'on manipule toujours des sigles, on manipule toujours des lois, mais le seul principe de cette loi, c'est de regarder la fortune des élus quand ils rentrent en politique et quand ils en sortent, pour voir qu'il n'y ait pas eu un enrichissement suspect ou particulier.
Claude Veil, il n'empêche la République exemplaire, est-ce que la société n'a pas changé? Pour sa défense, Patrick Balkany, lors du procès, a dit « frauder le fisc était un sport national ». Bah, l'époque a changé, non? Alors, ou bien ça reste un sport national?
Non, je crois que c'est beaucoup moins qu'avant, mais c'est vrai, bon, il ne faut pas non plus la raconter. Les gens sont indignés par la grande fraude, et ils ont raison, ils sont indignés par les malversations des puissants, des grandes entreprises qui délocalisent, qui défiscalisent à tour de bras, etc. Je ne pense pas qu'il y ait une indignation absolue, que les gens sont prêts à prendre le maquis s'ils entendent dire que leur voisin a donné 25 euros de la main à la main à un jardinier sans facture. Il ne faut quand même pas exagérer, nous ne sommes pas un pays calviniste quand même. Hein.
Sauf que là, on parle de millions pour Patrick
Balkany. Mais on n'est pas non plus la Grèce d'avant la crise de 2008 où les factures n'existaient pas. On est dans un pays... Mais je pense que globalement, on va vers une moralisation, mais une moralisation aussi par la peur du gendarme. Parce que regardez, aujourd'hui, planquer son fric à l'étranger, c'est devenu extraordinairement difficile. Pourquoi? Parce qu'après la crise de 2008...
Échange automatique entre
toutes les nations sont mises d'accord. On a fait une liste des pays noirs, gris, je ne sais plus comment les appeler. Et maintenant, par exemple, la Suisse n'est plus un paradis fiscal.
Même le Panama.
Ça ne sert à rien d'aller à Genève planquer votre argent. La Suisse n'est plus un paradis fiscal. Il n'y a plus beaucoup de paradis fiscaux dans le monde. Quelques îlots perdus qui continuent et qui sont mis au banc de la communauté internationale.
C'est dans le Pacifique, c'est loin.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Cela fait 20 ans que les Balkany sont dans le collimateur de la justice. Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour les condamner, Mathieu Delahousse?
Parce que les juges ont été, dans cette affaire, otages d'un secret. Et ce secret a été brisé par un homme qui s'appelle Didier Schuller. C'est un homme qu'on n'a pas évoqué, qu'on a fait l'histoire de la droite dans les Hauts-de-Seine. Mais le dossier Balkany a failli rester sous une pile. Et c'est d'ailleurs dans cet état-là physique qu'il était au pôle financier de Paris. Jusqu'à ce qu'un homme, un jour, décide avec une avocate d'aller voir Renaud van Ruynbeek, juge d'instruction à l'époque, et de lui expliquer par le menu et par la vengeance, qui est un plat qui se mange froid, quelles étaient les turpitudes du couple Balkany.
Schuller étant un ancien collaborateur, directeur des HLM
de on
et
était
ami.
Et voilà.
Ami.
Mais ça date de quand? Ça date de quand là, ces révélations de Schuller?
Alors on est à la fin des années 2000. Voici une question piège sur la chronologie des dates, mais en tout cas,
après
les Antilles. Mais il y a cette rivalité politique qui est fondatrice dans le dossier, et le dossier judiciaire n'aurait jamais existé si Schuller n'avait pas parlé. À partir du moment où il parle, il donne quelques détails, il donne quelques documents. Ouais. Van Ruynbeek a des qualifications pénales pour y aller, et effectivement, la police judiciaire à ce moment-là peut y aller. La gendarmerie enquête également sur Giverny, et le dossier se constitue et il est porté au tribunal, ce qui était impensable avec le silence collectif de ces gens-là dans les années 90.
Ça me fait penser que Balkany, Richard Ferrand, François de Rugy, à chaque fois sont des, et même Cahuzac, à chaque fois sont des dénonciations de proches.
Avec des cas malgré tout différents, pardon.
Oui, des cas différents, mais à chaque fois, ce sont l'épouse, des amis, des gens comme ça qui balancent. Oui,
Jérôme Cahuzac, le dossier tenait, il a abouti à une condamnation. Patrick Balkany, le dossier tenait, il a abouti à une condamnation. François de Rugy, la condamnation, pour l'instant, n'a pas tenu, et j'ai oublié le quatrième.
C'était Richard Ferrand.
Richard Ferrand, c'est en cours.
Citer sur le rôle que joue un organisme, une association comme Anticor, qui a au fond une espèce de compétence universelle.
Qui est à la manœuvre sur Richard Ferrand.
Qui a une espèce de compétence universelle pour porter plainte où elle veut contre. Sur des éléments, naturellement. Et c'est d'ailleurs c'est assez amusant parce que.
Anticor,
de mémoire, a été créé par le juge Alphen, qui était un des juges de l'affaire Schuller.
Mais un juge doit valider quand même la démarche d'Anticor avant d'ouvrir.
Il faut qu'un procureur examine la plainte, etc.
Mais ces agréments n'ont été possibles qu'après les lois de 2013 et c'est Christiane Taubira qui avait été à l'origine de cette possibilité. Je crois qu'il y a deux associations aujourd'hui qui sont agréées.
Alors, beaucoup de questions sur Patrick Balkany. On comprend la condamnation, mais l'incarcération immédiate n'est-elle pas liée à une volonté de l'humilier? Alors, Alice Bouyagé.
C'est vrai que ça peut faire penser au perp walk, ce qu'avait subi DSK en son temps, alors qu'il est pour le coup une technique aux États-Unis courante.
Perp walk, c'est la volonté d'humilier quelqu'un en le montrant avec des menottes.
On le montre avec les menottes, et puissant ou misérable, mais encore mieux si c'est impuissant, pour montrer une forme d'exemple.
La justice ne recule devant rien.
Exactement. Alors, je ne sais pas si la comparaison tient la route, mais c'est vrai que l'incarcération immédiate pour quelqu'un qui ne possédait pas de passeport, qui ne pouvait pas fuir et dont la seule raison est de l'empêcher de fuir, c'est vrai qu'elle est difficilement compréhensible.
Il y a une dimension
rarissime dans les délits fiscaux.
Il y a une dimension humaine qui est dramatique sur l'affaire de Patrick Balkany, envoyé en prison effectivement à l'issue du jugement, mais il y a une polémique qui est quand même très française et très particulière par rapport à la relation des Français avec la justice. Mais imaginez qu'est-ce qu'on serait en train de commenter ce soir si le tribunal avait prononcé une condamnation, mais que Patrick Balkany était ce matin dans sa ville de Levallois, sur le marché avec Isabelle. Les mêmes commentateurs, les mêmes réseaux sociaux diraient « Regardez, la justice n'agit pas. Regardez, la prison n'est que pour les mains sales et la petite délinquance et jamais pour les cols blancs. » Donc c'est vrai qu'il y a une maladie française face à la justice qui ne sera jamais réglée, à mon sens, sur ces questions-là.
Patrick Balkany est-il dans un quartier VIP tout confort?
On l'a expliqué, il est dans un quartier particulier pour être soustrait au reste de la population pénale avec d'autres. Il n'est pas le premier parce que l'administration pénale considère qu'il faut protéger certaines personnes qui pourraient, dans les cours de promenade, se retrouver...
VIP, à la rigueur, tout confort, la personne qui a posé la question, je lui conseille d'aller voir.
Oui. Ça reste 9 mètres carrés et 4 murs.
Isabelle Balkany est inéligible pour 10 ans, mais elle peut retourner dans sa mairie. Point d'interrogation.
Mais elle a fait appel. L'appel est suspensif. Donc, encore une fois, c'est vrai pour tout le monde.
Et l'appel, quand sera-t-il rendu
D'ici un an. En général, on dit qu'il faut au moins une grosse année pour...
Il va y avoir un procès,
il y aura un nouveau procès d'ici un an, probablement.
La peine pourrait être alourdie en appel?
Tout est possible en appel. Il peut y avoir des éléments nouveaux, il peut y avoir un témoin miraculeux qui vient raconter qu'effectivement, les lingots d'or, c'était vrai, et Patrick Balkany est relaxé. Il peut y avoir les éléments dramatiques que Isabelle Balkany a subi avant le procès avec cette dépression et cette tentative de suicide. En appel, tout est toujours possible.
Comment expliquer que les Balkany soient autant soutenus par les habitants de Levallois-Perret?
Ils sont contents de
on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire un équipement haut de gamme, la police municipale armée, la transformation de cette cité communiste, ouvrière, l'occupation sécurité. Des friches, la sécurité. Ils ont coché toutes les cases.
La proximité, le côté... Ouais,
les Balkany ont été très critiqués quand ils ont mis en place police municipale armée, la vidéosurveillance, France. À l'époque, il y avait des polémiques incroyables dans les années 80. Aujourd'hui, ils ont fait école, beaucoup de choses ont été reprises. Il faut reconnaître que du point de vue de certains aspects de, la gestion municipale, ils ont plutôt réussi. Alors, il y en a qui critiquent l'aspect endettement, ça a été expliqué. Il y a beaucoup de choses qui sont critiquées. Mais il y a beaucoup de choses qui sont très appréciées des Levallois-Oisiens. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde pour ce matin.
Et puis, si je peux me permettre, indépendamment des défauts sur lesquels nous sommes longuement attardés, ils sont assez sympas. Les gens qui les
rencontrent. Oui, on disait côté Bonnie and Clyde. Hein.
Non, plutôt que Bonnie and Clyde. Je veux dire, lui, ça serait plutôt un mélange de. On l'a vu, il était beau gosse, jeune et tout ça. Il y a un mélange de Gatsby, de Bernard Tapie, le côté.
D'accord.
Côté gouailleur, comme ça.
Si le couple devait aussi être condamné le 18 octobre, qui sera le second procès pour corruption, les peines de prison se cumuleraient-elles? Alors, pour le second procès, la réquisition, c'est 7 ans de prison.
7 ans. Dans l'état du réquisitoire aujourd'hui, Patrick Balkany, si le parquet est suivi, serait condamné à 11 ans.
4+7.
Ce qui, effectivement, s'ajouterait, mais avec une particularité qui est un peu technique, dépasse la peine encourue de 10, donc ça serait confondu. Donc, il aurait effectivement les 10 années de prison, qui est le maximum auquel il puisse être condamné.
Pourquoi aviez-vous l'air tout à l'heure de dire qu'il ne les ferait certainement pas, ces 10 années?
Parce que la peine en France correspond toujours à une période qui est aménageable à un moment ou à un autre. Là, elle est particulièrement... Elle ne l'est pas du tout quand on s'appelle Salah Abdeslam, mais elle l'est beaucoup plus quand on s'appelle Patrick Balkany. Pourquoi? Parce qu'il a 71 ans, parce qu'on est à la fin de la peine, etc. Et donc, effectivement, on sera dans un aménagement de peine qui tombe sous le sens, qui n'est pas choquant et qui, par ailleurs, sort aussi la France de cette culture du cachot, y compris dans les affaires politico-financières.
Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'y avoir participé. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur France 5. À suivre, c'est à vous, avec comme invité Maître Dupont-Moretti, qui est l'avocat donc, de Patrick Balkany, dont on vient de parler. Bonne soirée
sur France 5. Et des policiers dans le procès Mélenchon.